Salut à tous, bienvenue sur Radio Chad. On est le 27, on est le mercredi 27 mars 2024 et ce soir on se fait une émission. On se fait enfin l'émission qu'on devait faire il y a 2 semaines, qui est donc l'émission qui va comparer or et Bitcoin. On n'avait jamais fait ça et je suis très content qu'on aborde ce sujet-là ce soir. Donc pour ce faire, j'ai comme invité Alexis. Et qui est un spécialiste du domaine, qui a notamment lancé un projet en fait d'une crypto qui est backée par l'or il y a pas si longtemps, il me semble. Donc on va parler de tout ça. Je suis très content de te recevoir, Alexis, ce soir. Ça va?
Bonsoir, ça va, merci et merci pour l'invitation aussi pour le podcast de ce soir.
Eh ben de rien. Écoute, alors la personne qui nous a mis en contact, c'est Chloé qui est ici présente. Elle m'avait contacté il y a quelques temps pour me proposer d'interagir avec toi. Elle m'a dit que Donc elle écoute souvent l'émission et puis elle m'a dit que qu'on était dans donc on avait la même vibe. Alors je suis très content. Alors si on a la même vibe, on va avoir une cool discussion. Aussi alors je voulais dire avant qu'on commence, évidemment comme chaque mercredi l'émission est sponsorisée par MEV Capital. En fait MEV Capital m'aide financièrement et je les remercie 1000 fois pour ça. Et puis autre chose aussi. Demain, donc ça sera comme tous les jeudis l'émission géopolitique, géoéconomie, et on sera. Alors en général, on détermine le thème au dernier moment. Donc cette fois-ci, on a le thème en avance. Ce sera une émission sur la hausse du prix du cacao. Donc voilà, soyez là demain si vous êtes intéressé par ça. Et quoi d'autre à dire? Oui, désolé pour hier soir. Il n'y a pas eu d'émission. On a essayé de. Bon, moi je pouvais pas parce que j'étais en déplacement et donc on a essayé de gérer comment dire, les paramètres de connexion et tout avec Quarl de sorte à ce que il puisse lancer lui-même l'émission, mais ça n'a pas fonctionné donc l'émission est tombée à l'eau, mais c'est pas grave. On va essayer de s'arranger pour que de temps en temps, quand c'est vraiment pas possible pour moi, que Quarl ou peut-être même d'autres personnes puissent présenter l'émission. C'est un peu nouveau, on n'a jamais fait ça avant et donc on a fait la première de ce truc-là lundi. Donc merci encore à toi, Quarl, d'avoir présenté l'émission lundi, c'était super cool. Et j'ai pas tout écouté encore, j'étais là, je pouvais pas écouter l'émission, mais enfin je pouvais entendre de temps en temps et tout. Ça avait l'air de bien se passer, mais je veux réécouter l'émission en entier. Mais d'ailleurs elle est dispo sur Spotify. Voilà. Salut à ceux qui sont là, salut CypherTux, salut Cyril, salut Quarl, et puis Cryptomancien, Cryptomatador, pardon. Voilà. Alors enchanté, Alexis, comment ça va?
Enchanté, ça va très bien et toi, merci.
Bah ça va super. Donc là je suis un petit peu en train de voyager, donc c'est pas tous les jours facile, mais ça va. Je me suis trouvé un petit coin bien tranquille et j'espère qu'on m'entend bien. Est-ce que alors avant qu'on commence à parler de l'or et du Bitcoin, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui t'es, ce que tu fais dans la vie, et puis aussi peut-être même aussi dire comment t'es arrivé dans les cryptos?
Ça marche, bah, avec plaisir. Du coup, moi, c'est Alexis Beuglin, j'ai 26 ans. Je suis arrivé un petit peu dans les cryptos, en fait. Mon premier contact avec Bitcoin, c'était, on va dire, il y a une dizaine d'années, quand j'étais encore au lycée. Et à l'époque, j'avais découvert le Bitcoin vraiment comme un objet d'Internet, un petit peu une curiosité, aussi la monnaie du Darknet, qui lui a donné pendant longtemps une mauvaise image qui lui a collé à la peau. Et j'avais laissé un petit peu de côté cette curiosité. J'y suis revenu un petit peu plus tard, fin 2017, début 2018, c'est-à-dire au moment un peu où, on va dire, le premier cycle de Bitcoin qui avait connu une phase d'euphorie, un peu une bulle qui avait éclaté et suivi d'une phase de baisse assez longue. Et en fait, j'y étais revenu comme pour beaucoup, d'abord pour essayer de spéculer un petit peu et en fait me faire de l'argent sur les cryptos. Et en fait, j'ai commencé vraiment c'était mon premier investissement, toute classe d'actifs confondus. Donc, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, à me plonger dedans. J'ai essayé de me renseigner un petit peu à propos du trading et je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Je trouvais dans les différents contenus que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de matière. Et donc, je me suis intéressé à la technologie, on va dire un petit peu aux fondamentaux de la crypto. Suite à ça, je me suis vraiment passionné pour le domaine. J'ai repris les études en fait dans l'idée de travailler dans le domaine. Donc à l'époque, en 2018, il restait plus grand-chose dans le monde de la crypto. Et en fait, j'ai repris les études direction la finance,
OK.
justement dans le but de travailler dans le domaine. Et au cours de mes études, j'ai rejoint en fait le projet VeraOne du groupe OKOF. Donc VeraOne qui en fait est un projet de tokenisation de métaux précieux, ou plus simplement un stablecoin adossé à l'or, donc dont chaque unité sont adossées à un gramme d'or. J'ai continué au sein du groupe et en fait nous avons lancé en 2022 Cryptcool qui pour le coup est un pur player crypto au sein d'un groupe spécialisé à la base dans les métaux précieux.
Ok, d'accord. Ouais, c'est quoi la compagnie qui est au-dessus de Cryptcool?
C'est OKOF qui du coup en
Ah,
fait
c'est ça, ouais.
c'est à la base la maison mère, donc OKOF, et on va dire un e-commerce de métaux précieux qui a été lancé en 2009, qui a la spécificité en fait de faire l'activité d'échange de pièces, donc d'achat-vente et d'échange entre les membres, de conservation, donc dans une des places fortes les plus sécurisées du monde, qui sont les ports francs de Genève. Et aussi d'avoir d'être la seule frappe de monnaie privée en France. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a que deux frappes de monnaie. C'est la monnaie de Paris et du coup OKOF, au travers de sa marque VeraValor, qui produit notamment de la monnaie d'investissement en fait pour certains pays, notamment Gibraltar, la Nouvelle-Zélande ou encore le Tchad.
Ok. Et eux, donc, ils ont lancé. C'est eux qui ont lancé donc Cryptcool, qui est un projet crypto.
C'est ça, tout à fait. En fait, l'expérience blockchain du groupe a débuté aux alentours de 2015. L'idée était d'exploiter une blockchain privée, donc en dehors des fonctions de crypto, uniquement pour la fonction de base de données. L'idée était de créer un livre de police. Donc en fait, c'est un livre de base papier dans lequel on enregistre toutes les transactions en or que les douanes peuvent venir en fait consulter à n'importe quel moment. Donc c'est un livre de traçabilité et la problématique auxquelles on souhaitait répondre, c'était en fait de pouvoir tenir ce registre de police sur un support informatisé. Étant donné que le problème d'un support informatisé par rapport à un support papier, c'est que le support papier, le carnet en fait est un carnet très spécifique avec des pages numérotées. Il est interdit de raturer dans le carnet ou d'arracher des pages. C'est ce qui permet de garantir que toutes les informations qui ont été mises dedans n'ont pas été trafiquées. Sur un milieu informatique, l'information étant facilement manipulable, les douanes n'acceptent pas en fait de tenir ce type de registre sur ce support. Et la blockchain, de par ses caractéristiques d'infalsification de l'information, permettait de répondre en fait à cette problématique. Par la suite, le groupe en 2018 a commencé à expérimenter un petit peu avec le Bitcoin. Donc avant l'arrivée de la loi Pacte, OKOF a commercialisé un petit peu de Bitcoin conservé en coffre-fort au travers de son offre classique. Elle a été arrêtée en 2019, justement avec l'arrivée de cette fameuse loi Pacte qui demandait le PSAN pour ce type d'activité. Et en fait, le PSAN pour OKOF était un peu trop compliqué à avoir, étant donné que ça aurait fait passer tout le process métaux précieux, qui n'est pas directement en fait régulé par l'AMF, mais plutôt par les douanes. Et c'est des complications qu'on ne voulait pas faire à l'époque. Pour le coup, on a fait le choix de rester dans la crypto avec le projet VeraOne, qui est ce fameux stablecoin adossé à l'or, donc qui a été lancé fin 2019 et vraiment en production, on va dire début de 2020. Qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, en parallèle, en 2022, nous avons lancé Cryptcool, qu'on a fait enregistrer PSAN en 2023.
Ok, alors tu es en train de me dire que dans l'industrie des métaux précieux, il y a encore des gens qui travaillent, genre leur registre, c'est des cahiers avec écrit de dessus au stylo, genre.
C'est ça, en fait, c'est les registres de police. Qui ont vraiment qui sont un document obligatoire à tenir pour tous les commerçants de métaux précieux. Donc c'est-à-dire que ça va à la fois des plateformes comme nous, des antiquaires par exemple qui vont pouvoir avoir des pièces de monnaie dans leur inventaire, ou même encore par exemple des bijoutiers qui travaillent sur des métaux précieux.
Ok, d'accord. Et ça, quand tu dis que c'est obligatoire, c'est par exemple, si jamais il y a c'est obligatoire entre dans le privé, c'est-à-dire les différents commerçants entre eux, ou alors c'est obligatoire, c'est il y a carrément c'est légalement t'es obligé d'avoir ce registre sous format papier.
Mais uniquement pour les professionnels. Et en fait, le papier était plutôt une obligation de fait, dans le sens où le papier garantissait le côté infalsifiable de l'information. Ouais. Étant donné que voilà, c'est comme un petit peu un livre de recettes d'auto-entrepreneurs pour ceux qui connaissent. C'est un livre en fait qu'on tient au jour le jour, dans lequel on passe toutes les opérations. Les pages sont numérotées et il est vraiment interdit en fait de venir raturer d'anciennes écritures ou encore d'arracher une page. Et le fait que les pages soient numérotées permettent de remarquer si une page a été retirée du registre.
Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui arrive, genre un fou, il arrive, il prend cahier, il fait une rature, puis repart au courant. C'est quoi la conséquence de ça?
Ah, j'avoue que sur ce point-là, j'ai pas forcément la réponse. Moi, étant plutôt spécialisé sur la partie crypto, ouais. On va demander à mes collègues voilà, qui gèrent ce type de registre. Mais voilà, étant donné que c'est un document assez important, en général, il est plutôt protégé, d'autant plus que c'est une obligation réglementaire, donc voilà, c'est un document assez sensible.
Ouais, je vois, c'est quand même fou de penser à ça. Et donc, l'idée de passer à la blockchain à la place donc, du papier, est-ce que c'est un truc... comment ça pourrait être, parce que c'est une très bonne idée en fait, mais comment ça peut être d'une part accepté dans l'industrie? Alors comment tu fais pour que ça se répande finalement, que ça remplace, ou en tout cas que ce soit, j'imagine dans un premier lieu, fait conjointement au truc papier. Et deuxième question, en fait, ensuite l'étape suivante en fait, comment tu peux faire qu'éventuellement un jour il y ait le côté légal qui soit qui passe du papier à la blockchain?
Est-ce que tu m'entends à nouveau?
Ah oui, ça y est.
Ah, pardon. Oui, du coup, je disais, c'est vraiment en fait la réglementation qu'il faut faire évoluer dans le domaine. Donc, ça va être un travail avec les institutions en fait pour pouvoir faire accepter ces technologies. Pour l'instant, ça commence à se mettre en place. Après, c'est vrai que l'utilisation pour un registre de police, c'est un petit peu, on va dire, une niche. Et pour l'instant, les institutions s'intéressent plutôt à l'utilisation de blockchain. En tant qu'infrastructure de marché. Donc, par exemple, pour s'échanger des titres et assurer leur conservation.
Ok, d'accord. Et alors, pour aller un petit peu plus en avant dans le débat, en tout cas sur le thème de la journée, enfin du soir, donc, toi, tu as le Veracoin, donc c'est une crypto qui est backée par l'or, etc. Donc, on parle de... d'assets qui sont backés par l'or. J'ai plein de questions. Mais la première question, ce serait genre, qu'est-ce qui fait que backer quelque chose par l'or, c'est intéressant?
En fait, si on le présente comme un stablecoin, c'est vraiment pour l'utiliser dans le cadre d'investissement crypto. Et en fait, quand un investisseur crypto souhaite stabiliser la valeur de son portefeuille, il va aller vraiment sur ses stablecoins. Donc les plus connus sont les stablecoins adossés au dollar. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez antinomique. C'est-à-dire qu'on va, on va vers le Bitcoin un petit peu pour ses valeurs, pour sa rareté, le fait que par design, il y a une quantité limitée, qui soit un petit peu déflationniste par nature. Et pour aller stabiliser la valeur de cet actif qui, pour l'instant, est assez volatile, on va aller sur le dollar, qui est tout l'inverse de cet actif, c'est-à-dire qu'il a une quantité maximum potentiellement illimitée, qu'il est manipulable, qui dépend d'un état, en fait, qui va vraiment à l'inverse des valeurs de Bitcoin. Et l'or, qui possède beaucoup de qualités communes au Bitcoin, vient parfaitement jouer ce rôle qui est à la fois de pouvoir stabiliser la valeur d'un portefeuille tout en étant au sein, on va dire, du même nombre de valeurs, que ce soit en termes de rareté, du côté infalsifiable, la stabilité, étant donné que l'or va avoir tendance à monter sur le long terme. Et en fait, ce n'est pas l'or qui prend de la valeur, c'est les monnaies qui en perdent face à l'or.
Mais ça n'a pas toujours été le cas, non? Je ne sais pas. Normalement, en fait, la monnaie fiduciaire, en gros, elle est censée subir une inflation d'à peu près 2% max par an. mais c'est censé être quelque chose de hyper stable en fait.
Alors ça, c'est en théorie, mais en pratique actuellement, je crois qu'on est aux alentours de 5 en France. En fait, souvent, le fait que l'État ait le contrôle de la monnaie, ils vont avoir une propension à utiliser l'outil monétaire pour servir leurs intérêts politiques. C'est justement là où le Bitcoin et l'or viennent en réponse à ce phénomène. On parle parfois de sound money, ou monnaie sonnante, on va dire, mais le terme maintenant utilisé est plutôt celui de hard money, donc monnaie dure pour ce qui est Bitcoin et l'or, c'est-à-dire qu'ils sont décentralisés, infalsifiables, qu'ils ont des propriétés vérifiables, ils ne sont pas régis par un État et ils ne sont pas manipulables. Face aux soft money, qui en fait sont les monnaies flexibles et qui sont celles émises par les États et qui peuvent en fait être facilement manipulées par l'appareil politique.
Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que tu connais d'autres assets qui sont backés par l'or ? Historiquement, genre.
En fait, ça va vraiment être tout ce qui est pièces de monnaie. Autrefois aussi, la monnaie d'État, en fait, jusqu'en 71, était adossée.
Ouais, c'est
c'est-à-dire qu'il y avait les accords de Bretton Woods. Le dollar avait une parité fixe avec l'or, c'est-à-dire que 35 dollars correspondaient à une once d'or, et c'était une valeur fixe qui était garantie par l'État. Et en fait, suite un petit peu au choc pétrolier et à une petite crise qu'a connue les États-Unis, ils ont suspendu de manière temporaire les accords de Bretton Woods, donc la parité or-dollar. Et en fait, cette suspension est devenue un petit peu définitive, étant donné que c'est toujours le cas aujourd'hui.
Ouais, mais sinon, il n'y a pas d'assets qui sont connus pour être backés par l'or, genre, je sais pas, quelque chose dans les biens immobiliers ou dans n'importe quoi d'autre. Il n'y a rien qui, il n'y a pas un marché. Est-ce que le truc des cryptos qui sont backés par l'or, c'est un truc nouveau? Genre, si on laisse de côté cette histoire de avant, la monnaie était backée par l'or.
Il y a éventuellement la titrisation. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Bitcoin aussi ces derniers mois. La titrisation, en fait, est le fait de créer un titre financier sur une valeur qui, à la base, n'est pas une valeur de marché financier. Donc, c'est devenu le cas en 2008 à peu près avec la montée en puissance des ETF pour l'or. Et du coup, ces derniers mois pour le Bitcoin, depuis que les ETF spot ont été acceptés. Après, en termes d'actifs, on va dire backés par l'or, ça va plutôt être pas vraiment des actifs, mais plutôt des objets. Par exemple, des montres, de l'art, des bijoux. En fait, voilà, tous ces objets qui vont utiliser l'or, mais dont la destination première n'est pas l'investissement ou la valeur, on va dire, la valeur poids de l'or.
Ouais, alors parce que j'ai une autre question d'ailleurs par rapport à ça. Tu parlais de titrisation. Alors attends, parce que j'ai un petit peu de bruit. Ouais. Donc en gros, j'ai des potes qui à un moment donné achetaient un petit peu d'or et tout, et ça avait l'air hyper galère. Genre ça avait l'air de bon, c'est Kanye West à fond. C'est quand même compliqué de garder l'or en fait. En général, tu le laisses chez quelqu'un, donc chez un tiers, ou alors tu le mets dans un coffre spécial, etc. Enfin, c'est pas un truc vraiment que les particuliers font, acheter de l'or. C'est en général en plus des institutions, des États, etc. Et même eux, enfin, il y a tout un circuit de stockage et de transfert de l'or qui est quand même très particulier. Comment ça se passe avec justement Veracoin? Vera One, pardon. Vera One, je crois qu'il y en a un qui existe qui s'appelle Veracoin, c'est pas du tout pareil. Comment ça se passe avec Vera One pour acquérir de l'or et le conserver, etc.
Alors, avant tout, à propos des particuliers qui possèdent de l'or, il faut savoir que c'est pas tout à fait vrai le fait qu'il y en ait peu qui s'y intéressent ou qui en possèdent. Même si c'est difficile à estimer, par exemple, les Français aujourd'hui ont à peu près autant d'or chez eux que l'État français.
Sérieux ?
C'est ça, c'est-à-dire qu'on parle à peu près de 2500 tonnes. Alors, pour des États, c'est facile étant donné qu'ils publient leurs chiffres, mais pour des particuliers, c'est beaucoup plus compliqué étant donné que malgré qu'il y ait des sondages, des études ou ce genre de choses, ceux qui possèdent de l'or en général ont tendance à rester relativement discrets à propos de ça. Et donc, on a des estimations voilà, qui donnent un chiffre en général entre 1000 et 3000 tonnes d'or. Donc, par rapport à l'État français qui en possède 2500, on va dire que ça reste assez proche. Et pour le Verawan, en fait, nous, on va émettre un token, donc au travers du processus de tokenisation, qui en fait est assez similaire au processus de titrisation. À quelques différences, c'est que les tokens vont être beaucoup plus flexibles en termes de détention, en termes de distribution, en termes de transparence. C'est-à-dire que pour tout ce qui est titres financiers, il faut aller chercher l'information sur les places de marché, sur les émetteurs. Ils ont une gestion assez discrétionnaire parfois justement de leur fonds de titrisation. Et même pour tout ce qui est, on va dire, l'usage. Par exemple, de l'or qui va être titrisé va s'échanger sur des places de marché traditionnelles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'échanger que pendant les horaires d'ouverture du marché. Pour faire un échange, on va passer par les processus de règlement livraison classique des marchés financiers, c'est-à-dire passer par une chambre de compensation qui en fait va faire l'opération qu'on appelle le règlement de livraison, c'est-à-dire de collecter le paiement d'une des deux parties. Les titres de l'autre et faire l'échange pour redistribuer à qui de droit chacun des actifs. Avec la tokenisation, ça va être beaucoup plus souple, étant donné qu'on va pouvoir venir consulter en direct la quantité d'actifs qui sont émis sur la blockchain. On va pouvoir les échanger à toute heure, même si le marché est fermé. En général, dans l'or, quand le marché est fermé, on utilise la cotation de clôture. Et en fait, dans un milieu blockchain, que les marchés soient ouverts ou fermés, on peut échanger à sa guise des tokens les uns contre les autres. Pareil pour le règlement livraison. Quand on passe par une blockchain, il est fait. Si vous avez déjà fait un swap en DeFi, le règlement livraison en fait est fait quasiment instantanément sur la blockchain. Et donc sur VeraOne, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un marché primaire dans lequel les gens peuvent acheter, c'est-à-dire créer du VeraOne. Où en fait ils vont acheter le token et nous on va le créer pour eux et acheter la contrepartie en or, ou lorsqu'ils le revendent, nous on va détruire les tokens et vendre la contrepartie en or. Ça fait qu'on a toujours une quantité de 1 pour 1 entre les actifs qui sont émis sur la blockchain et les actifs que nous on possède en coffre. Et en fait, cette quantité est auditée annuellement pour s'assurer qu'on a bien la réserve qu'on prétend avoir sur la blockchain.
Alors, pour ce qui est de Bitcoin, en général, on dit not your keys, not your coin. Et on a tendance.
Pardon, je ne t'entends plus, je ne sais pas si c'est que moi. Alors je pense que notre hôte a eu un problème technique. Je ne sais pas s'il nous entend, mais pour commencer un petit peu à répondre à la question par rapport au sujet un petit peu qui est très connu dans Bitcoin, le fait que si vous ne possédez pas vos clés, vous ne possédez pas les cryptos. Et en fait, c'est un sujet qui touche plutôt à tout ce qui va être la décentralisation. Et de mon point de vue, en fait, la décentralisation est intéressante quand elle répond à une centralisation forcée, telle que c'est le cas, par exemple, avec les monnaies fiat, dont maintenant on est quasiment obligé de souscrire à un compte bancaire ou ce genre de choses pour différents paiements, par exemple le paiement des impôts, la réception des salaires, ce genre de choses. Et en fait, sans aller dans le maximalisme de la décentralisation, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir en fait le choix, choisir à qui on peut confier ses actifs ou de les conserver soi-même. La notion de choix va être très importante par rapport à ces concepts de centralisation ou décentralisation.
Alors, je suis de retour, j'ai eu un gros problème de connexion, et alors du coup, je sais pas si tu as entendu ma question, si tu étais en train d'y répondre, je suis perdu.
J'étais un petit peu en train d'y répondre. Tu nous parlais un petit peu du précepte « No Turkey, No Turkcoin », c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais bon, j'imagine que tu as compris le truc. Si jamais je sais pas allé jusqu'au bout, c'était ça. Est-ce que c'est allé jusqu'au bout de ma question ? Je sais plus, je sais pas.
Du coup, j'avais répondu un petit peu pendant que tu as eu ton problème technique. Et voilà, pour résumer très rapidement, en fait, le « No Turkey, No Turkcoin », c'est posséder soi-même ses actifs. Et c'est une notion qui est importante quand on a le choix. C'est-à-dire que pour les monnaies fiat, par exemple, on n'a pas le choix de passer par un système centralisé pour recevoir ton salaire, pour faire des paiements comme les impôts, ce genre de choses. En fait, tu vas devoir passer par une banque et passer par ce système centralisé. Avec Bitcoin, par exemple, tu as le choix soit de les conserver toi-même, soit de les confier à un intermédiaire. Mais quand tu les confies à un intermédiaire, c'est en pleine connaissance de cause et c'est un choix éclairé, en fait. Ce qui n'est pas le cas, on va dire, du côté des monnaies fiat. Pour l'or, c'est pareil. Le confier à un intermédiaire, c'est un choix parce qu'on a la possibilité de le faire ou soi-même ou de passer par un intermédiaire. Et en fait, le rôle de l'intermédiaire là-dedans va être d'apporter de la valeur. Donc, par exemple, sur l'or, d'apporter de la sécurité, d'apporter de la liquidité, de la disponibilité, un petit peu tout ce genre de choses.
Ouais, alors c'est justement, est-ce que tu peux en parler de ces aspects que tu viens de citer? Parce que pour le Bitcoin, comme tu viens de le dire, tu as le choix, effectivement. Et en gros, normalement, la seule raison pour laquelle tu confies tes Bitcoins à quelqu'un d'autre que toi, c'est pour spéculer. Je vois vraiment pas d'autres raisons. Ou alors, dans le cadre d'une compagnie, c'est un peu différent, justement, parce que c'est compliqué de partager les clés privées entre les membres de la compagnie, etc. Enfin, c'est genre, si il y a des situations où avoir gérer un multisig, c'est même ça, c'est compliqué. Donc, c'est mieux de passer par une compagnie qui émet des titres, etc.
Mmh.
Pour ce qui est de l'or,
je peux te poser la question par rapport à ça. Comment est-ce que tu vas faire pour transmettre les bitcoins que tu détiens en propre? C'est-à-dire que tu as ta clé, tu possèdes ta seed phrase. Demain, il t'arrive quelque chose. Comment tu vas faire en sorte de pouvoir faire profiter de tes actifs à ta famille, tes enfants ou tes ayants droit en général?
Ah oui, c'est une très bonne question. J'en connais qui le font. Genre, tu mets une clé privée avec X le montant que tu veux dans un coffre, genre, et c'est ce coffre là qui est accédé par les gens qui te survivent. Mais effectivement la titrisation, c'est pratique pour ce cas de figure également. Ouais,
les intermédiaires, en fait, dans ces cas de figure, peuvent apporter de la valeur. Ouais. Nous, c'est notamment quelque chose qu'on fait chez Cryptcool. On s'adresse en fait à une cible qui, de base, est plutôt investisseur en or. Donc à la base, Cryptcool, ça a vraiment été une réponse à la demande de nos clients. Et on va dire que c'est une cible, on va dire, plutôt âgée, au-delà de quinca et plus, qui s'intéresse aux investissements, qui s'intéresse au Bitcoin. Mais pour eux, c'est quelque chose de très technique et qui fait un petit peu peur. Typiquement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, débarquer sur un exchange qui ressemble à une place de marché ultra compliquée, c'est presque effrayant, en fait, tellement que c'est complexe. Et quand on joue avec son patrimoine, c'est encore pire. Et nous, justement, on propose d'assurer la garde parce que certaines personnes ne veulent pas prendre la responsabilité de garder soi-même ses actifs. Et le fait de déléguer la responsabilité, en sachant que voilà, l'intermédiaire peut faire défaut, mais on se renseigne sur l'intermédiaire, sur ses pratiques, on évalue son risque et on fait le choix de passer par un intermédiaire.
Alors justement, la question que je voulais te poser à la base, c'est est-ce que c'est vraiment, c'est quoi les différences et les similarités, disons, sur ce point de vue-là, pour la titrisation de l'or et de Bitcoin? Par exemple, est-ce que il y a des cas de figure où t'es mieux d'avoir l'or avec toi, et d'autres, c'est quoi les autres cas de figure où c'est mieux d'avoir des titres à la place de l'or? Bon, c'est sûr qu'il y en a qui ressemblent à ceux de Bitcoin, mais j'imagine qu'il y a aussi des différences fondamentales entre ces deux assets-là.
Alors, je vais juste faire une petite précision. Nous, au sein du groupe, par contre, on ne fait pas de l'or titrisé. On va vraiment vendre de l'or physique qu'on conserve pour le compte et au nom du client. C'est-à-dire que nos clients ne possèdent pas, par exemple, une part d'un fonds d'investissement, mais possèdent vraiment en fait, de l'actif en dur que l'on garde pour lui. Ce qui
Ça veut dire qu'ils
pose, en fait.
peuvent venir te voir et dire est-ce que tu peux me filer l'or maintenant?
Ouais, voilà, c'est ça.
Ok, d'accord.
C'est selon les produits, soit on peut les livrer, ou en fait quand ils sont par exemple sur du lingot, c'est à récupérer directement pour prendre Genève en Suisse.
Ok. Donc, c'est quoi l'avantage de garder de l'or chez soi et l'avantage de ne pas garder chez soi? Alors.
Et chez soi, on va dire l'avantage, c'est qu'on prend soi-même la responsabilité. Enfin, si c'est un avantage ou pas, c'est une question de point de vue. On prend soi-même la responsabilité de la garde de ses fonds. Ça vient aussi avec certains risques. Et en fait, le risque, par exemple, de se faire cambrioler, à savoir que les cambriolages d'or, ça existe et parfois, c'est juste parce qu'une personne en a un petit peu parlé, ça s'est ébruité et c'est comme ça que ça aboutit en fait sur un cambriolage qui, au final, est un petit peu ciblé. Des fois, ça peut venir de la famille. Quand par exemple on souhaite encore une fois transmettre son or, alors soit on en parle à personne et un jour le lingot dort dans le jardin ou pareil pour des bitcoins en fait vont dormir dans un coffre ou sur une seed phrase que tes enfants de 8 ans en fait ne peuvent même pas décrypter. Et le fait de passer par un intermédiaire en fait va permettre par exemple d'avoir certains services, le fait de pouvoir transmettre plus facilement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe par un intermédiaire, on peut passer par les circuits de transmission, par un notaire, un petit peu plus facile. On peut déléguer la partie sécurité. En fait, c'est vraiment un choix. Est-ce qu'on souhaite sécuriser soi-même ses actifs avec les risques que ça importe, ou passer par un intermédiaire qui, lui, souvent a une expertise sur la conservation et peut le proposer sous forme de service, tout simplement.
Ok, ouais. Super intéressant. Alors je vais passer à la suite, mais j'aimerais dire à ceux qui sont là, donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonjour à ceux qui sont depuis tout à l'heure. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez dire des choses, n'importe quoi, demandez-moi lors de speaker, hein, c'est fait pour ça, comme d'habitude, hein, vous pouvez participer à l'émission, aucun souci. Et puis c'est ça, en fait. Bon, là jusqu'à maintenant, on a parlé, hein, des différents les aspects pour l'or et pour le Bitcoin, mais séparément. Mais du coup, maintenant, j'ai envie de te poser une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. C'est quoi l'intérêt, finalement, d'avoir de l'or plutôt que du Bitcoin?
Alors, on va quand même avoir une différence entre les deux actifs qui va être le but de pourquoi on achète ces actifs. Bitcoin va plutôt être un investissement, quelque chose qu'on achète parce qu'on croit dans la croissance future de sa valeur. Peut-être aussi pour voilà, les valeurs, on va dire, de décentralisation qu'il porte. Là où l'or va plutôt être une épargne. C'est-à-dire que c'est vraiment un actif, on va dire, anti-crise qu'on garde. Celui qui achète du Bitcoin, il est OK pour faire moins 50% dans les 2 mois qui suivent. Celui qui achète de l'or, en général, va plutôt le faire, on va dire, pour avoir une position conservatrice sur son portefeuille, quelque chose de vraiment résilient, qui ne va pas trop fluctuer et qui va se bonifier petit à petit dans le temps, prendre de la valeur, mais sans avoir justement cette volatilité. Et quand on est dans une logique de portefeuille un peu plus globale, le fait d'associer les deux et d'arbitrer, on va dire, un petit peu entre les deux valeurs, ça permet par exemple d'aller chercher de la performance pour un investisseur or, d'aller chercher de la performance sur le Bitcoin, et pour un investisseur Bitcoin, en fait, d'aller chercher de la stabilité sur l'or. Sachant qu'en plus, en fonction des cycles, les deux actifs ont parfois des comportements qui sont un petit peu contracycliques. C'est-à-dire que le Bitcoin va avoir un peu tendance à suivre les valeurs technologiques. Donc on le voit un petit peu tout ce qui est du Nasdaq ou encore par exemple Nvidia qui a fait de très bonnes performances un peu semblables à Bitcoin ces derniers temps. Et l'or, lui, va plutôt performer au moment des crises. Là où sur Bitcoin, ça va faire un petit peu des stress qui vont faire chuter les cours. Le Bitcoin, l'or, pardon, va avoir tendance à s'apprécier. Donc c'est deux actifs qui partagent des valeurs assez communes fondamentalement, c'est-à-dire en termes de rareté, du côté infalsifiable, de la décentralisation qui peut être choisie, ou le fait de choisir par soi-même de centraliser ses actifs. C'est vraiment deux actifs qui à la fois ont des valeurs qui sont communes, mais qui sont aussi complémentaires.
Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là pour les cycles et enfin les cycles d'accumulation et de je sais pas c'est quoi le mot contraire à ça d'ailleurs de libération de l'or et de Bitcoin. En gros, c'est marrant parce que il y a très longtemps, je m'étais vite fait intéressé un petit peu à l'or et en fait j'ai cru avoir le deux sons de cloche complètement opposés par rapport à l'accumulation par rapport à l'or, le comportement des gens. Avant et pendant les guerres. En gros, j'avais l'impression que moi, de base, c'était genre s'il y avait une crise, notamment, par exemple une guerre, les gens avaient tendance à accumuler de l'or pour faire face à la crise. Et j'avais vu une vidéo d'un mec qui était spécialiste dans le sujet et qui disait que c'était le contraire en fait, que les gens accumulaient avant la crise et qui ensuite vendaient pendant la crise pour avoir du cash pour justement faire face à la crise. Alors au bout d'un moment, je me suis dit c'était confus chez moi. Je me suis dit bon, alors dans ce cas, c'est quoi le vrai cycle? Est-ce que les gens accumulent, se séparent de leur or pendant la crise ou est-ce que ça arrive au moment où la crise commence? Mais comment on définit quand ça commence exactement? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? J'ai complètement abandonné mes recherches sur ce sujet-là parce qu'en fait je me suis dit en vrai j'en ai rien à foutre parce que maintenant l'or c'est Bitcoin donc voilà mais est-ce que tu peut-être t'as une meilleure connaissance sur le sujet que moi par rapport à justement ces cycles d'accumulation de l'or?
L'or, en fait, va vraiment être une assurance du patrimoine. Donc, quand on anticipe un petit peu des temps, on va dire, qui vont mal, entre guillemets, on va avoir tendance plutôt à accumuler de l'or, justement, pour se préparer aux temps difficiles. Et quand on a un peu plus de visibilité, on va dire, sur le futur, là, les investisseurs, sans non plus complètement désintéressés de l'or, vont plutôt aller, on va dire, sur des valeurs qui sont liées à l'économie. C'est-à-dire, si on sait que l'économie demain va aller bien, on va plutôt aller chercher des valeurs qui vont faire de la croissance et suivre, on va dire, le cycle de l'économie. Là où l'or a vraiment un rôle d'assurance du patrimoine et de protection de celui-ci. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu le bas de laine, le trésor de guerre, entre guillemets, qui va permettre de faire face aux situations difficiles.
Ok, je vois. Donc en gros, c'est ça, c'est genre perspective de futur indécis, de futur dont on ne connaît pas les avenues, t'accumules de l'or. Et si tu vois que la perspective future est plutôt favorable, tu t'en défais pour aller sur des
C'est ça.
valeurs. Ok, d'accord. Je
Après,
vois.
sur les marchés, on observe aussi un phénomène qui est assez récurrent, qui est le fait que l'or va plonger de manière très momentanée à l'intervention d'une crise, puis va remonter très rapidement après. En fait, ça s'explique assez facilement par le fait que les gérants de fonds, dès qu'il y a des grandes baisses de marché, vont avoir des appels de marge, c'est-à-dire qu'ils vont devoir refinancer des positions qu'ils ont prises sur les marchés. Et pour financer ces positions, ils vont vendre leurs actifs les plus liquides. Donc il y a Bitcoin en général qui va aussi avoir tendance à plonger étant donné que c'est risqué et liquide, donc on s'en débarrasse en premier. Et ensuite, les gérants de fonds vont un petit peu sortir de l'or pour payer leurs appels de marge. Mais l'or va remonter très vite après étant donné que tout le monde va se dire l'économie va mal, je préfère avoir de l'or que quoi que ce soit d'autre.
Oui, d'ailleurs, une petite question. Est-ce qu'en mars 2020, tu sais, quand tout a plongé, juste avant la crise Covid, est-ce que, l'or s'est effondré aussi?
Alors, l'or a baissé très momentanément et est remonté justement rapidement après. C'est-à-dire qu'il a eu exactement ce phénomène qui est sur quelques jours, les gérants de fonds ont dû vendre leur position en or pour couvrir d'autres positions. Et très rapidement après, en fait, ils sont sortis de toutes leurs positions pour revenir justement sur le métal précieux.
Ok, c'est intéressant. Ouais. Parce que justement, par rapport à Bitcoin, tout le monde se demande en permanence, en fait, qu'est-ce qui, c'est quoi les cycles, en fait. Genre, qu'est-ce qui fait monter, à quel moment les gens accumulent, à quel moment les gens se défont de leur Bitcoin. Évidemment, le plan en général, c'est de se dire que de toute façon, il faut parier long terme et accumuler quoi qu'il arrive et profiter des baisses pour accumuler encore plus, etc. Mais c'est bien de savoir aussi un petit peu avant s'il y a des moments où ça montre ça, ça va potentiellement monter beaucoup très vite ou alors descendre très vite, etc. Et du coup, en regardant un peu ce qui s'est passé dans le passé, on se dit bah peut-être que genre la perspective d'une guerre, ça fait monter les prix, les perspectives de par exemple des banques qui s'écroulent, ça fait monter les prix, etc. Et en fait, il y a souvent des contradictions. On pense que ce truc-là va arriver parce que c'est déjà arrivé dans le passé, mais en fait, l'événement qui est un peu similaire qui arrive, en fait, ça se passe pas du tout de la même façon. Donc c'est très difficile de dire finalement en fait qu'est-ce qui fait monter ou descendre Bitcoin. Et bah notamment, par exemple, en mars 2020, ça s'est écroulé, tout simplement.
Justement, Bitcoin suivait un petit peu les valeurs technologiques. Et en fait, avec la crise du Covid, les valeurs technologiques vont plutôt être des investissements qui vont suivre la croissance, donc c'est-à-dire innovants, assez risqués avec un fort potentiel à la hausse. Mais du coup, la performance potentielle étant toujours proportionnelle au risque, c'est aussi des investissements qui vont baisser beaucoup plus vite en temps de crise. Et Bitcoin est souvent vu par les gérants professionnels justement comme une de ces valeurs technologiques. Donc Bitcoin va être considéré un petit peu comme Nvidia, comme d'autres valeurs, comme les GAFAM, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il va être vu comme une valeur, par les gérants professionnels en tout cas, par les particuliers, ça peut être différent, mais il va être vu comme un peu un investissement technologique qui va beaucoup performer dans les phases de croissance ou dans les phases où les liquidités sont abondantes, ce qui s'est passé justement après Covid, étant donné que la plupart des politiques ont eu des politiques monétaires accommodantes, ce qui a beaucoup bénéficié et au marché financier et au Bitcoin. C'était notamment le cycle de 2021.
Ouais. Et ce que tu es en train de dire, c'est en quelque part plus ça imprime des billets, plus.
Après, les cycles précédents ne préjugent jamais des cycles futurs.
C'est compliqué. Même
pour ça qu'on ne sait pas si demain le halving va forcément faire monter le Bitcoin comme il l'a fait précédemment. Peut-être que ce sera le cas encore une fois, peut-être pas. En fait, personne ne peut le savoir à l'avance. Et peut-être qu'un jour où le Bitcoin va finir par se stabiliser, qu'il aura un rôle plutôt de réserve de valeur au même titre que l'or. Et peut-être aussi qu'il aura des cycles qui seront plus proches que celui de l'or.
Ouais, moi, j'ai tendance, ma théorie sur la question, je dis bien, c'est une théorie, évidemment, parce que voilà, c'est mon avis perso. En gros, je pense qu'il n'y a pas de cycle ou pas d'événement comme ça, parce qu'à chaque fois c'est démenti, tu vois. Il va se passer un truc, on va penser qu'il va se proposer la même chose la fois d'après, et en fait il se passe jamais la même chose. Donc en fait c'est quand même compliqué de prévoir dans ces conditions. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas prévoir. J'ai l'impression que ça se comporte pas du tout comme l'or de ce point de vue là. Et j'ai perdu le fil de ma pensée.
Le fait qu'ils avaient des cycles différents et des comportements qui ne sont pas forcément prédictibles à l'avance. Et justement, quelque chose qui me fait un petit peu écho par rapport à ce que tu me dis, c'est Bitcoin. Je ne sais pas si tu connais, il y a ce qu'on appelle un peu le Bitcoin Rainbow Chart. En fait, c'est un graphique en arc-en-ciel. Et quand tu es en bas de l'arc-en-ciel, on est en survente et c'est le moment d'acheter. Et quand tu es en haut de l'arc-en-ciel, on est en bulle et c'est le moment de vente. Et en fait, ouais, c'est un graphique qui est arrivé assez tard dans l'écosystème crypto. Je crois qu'il a été popularisé au cours du cycle de 2021 ou peut-être un petit peu avant. Et en fait, dès que le graphique a été invalidé, le créateur de ce graphique s'est empressé en fait d'aller modifier un petit peu les couleurs et les codes de ce graphique prédictif pour que ça rentre dans les cases.
Ouais, c'est complètement con. Ouais, je vois. Il y a le truc de plan B, etc. Enfin, il y a toutes sortes de différents graphique qui essaye de prévoir le prix de Bitcoin. Non, en fait, c'est ça. Tu m'as fait me souvenir du truc dont je voulais parler, c'est le halving. Le halving, c'est la même chose. C'est encore un autre événement où il y a eu peut-être, il y a eu des occurrences. On pense que on s'est dit, oh, en fait, c'est très simple. Ça va baisser avant le halving, et ensuite, une fois que le halving aura lieu, ça va ensuite monter. C'est comme ça que ça va se passer. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc préparez-vous. Hein. Et là, en fait, c'est passé exactement l'inverse. Donc voilà.
Probablement. Est plus du tout la même en fait par rapport au cycle précédent. Mine de rien, le cycle de 2017 a été un petit peu arrêté par le fait qu'ils aient autorisé des produits qui permettaient de shorter le Bitcoin sur les marchés au travers des fonds futurs. Le cycle de 2021 est arrivé plutôt par rapport à d'énormes liquidités, et aussi mine de rien le fait qu'il y ait eu des confinements. Les gens s'ennuyaient en fait en étant chez eux, ils se renseignaient sur diverses choses. La bourse et l'investissement en général en étaient une. Et en fait, ça a conduit beaucoup de particuliers à s'intéresser à l'investissement en général. C'est ce qui a fait monter ça, plus les politiques monétaires accommodantes, ce qui a beaucoup fait monter Bitcoin, la bourse. Et là encore, sur le dernier cycle un peu plus récent, ça a vraiment été la validation des ETF, où on a eu un flot d'institutionnels qui ne pouvaient pas encore s'exposer à Bitcoin. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, ils pouvaient passer par l'ETF Grayscale futur, mais qui avait un gros défaut, qui était d'avoir un premium quand le cours du Bitcoin était haut, c'est-à-dire qu'il se vendait plus cher que le cours du Bitcoin, et d'avoir un discount quand le prix du Bitcoin était bas. C'est-à-dire que quand le Bitcoin avait plongé, l'ETF Grayscale valait jusqu'à 50% moins que le prix du Bitcoin sur le marché.
Ouais, et d'ailleurs l'ETF Grayscale, est-ce que c'est celui qui a été mis en place, qui est arrivé en fin 2017, quand Bitcoin était à 20 000 jours?
Il me semble bien que c'est celui-ci, et il avait la particularité d'être un ETF futur, donc c'est-à-dire qu'il repose pas forcément sur du spot, et il a des conditions qui sont légèrement différentes. Après, c'est propre un peu au marché financier américain et à leurs règles. Qui sont un peu différents entre le spot et le futur.
Ah, ok, d'accord. Ouais, je vois. Parce que c'est ça, en fait, il y avait donc une règle qui s'était... parce qu'il y a une histoire de TF justement au top, à ce top-là de 2017, et donc qui donnait un signal un peu étrange sur les spéculateurs, qui disaient, ETF égale top, en fait. Et là, il s'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire là, c'était ETF égale bottom.
C'est ça, il y a eu des gros flux de liquidités. Alors, des fois, il faut quand même les remettre un petit peu en perspective, à savoir que le fonds Grayscale a perdu énormément, étant donné qu'il avait des frais qui étaient plus élevés que ceux de BlackRock ou d'autres émetteurs. Donc, en fait, quand on dit, à une époque, il disait, c'est bon, l'ETF Bitcoin a atteint 10 milliards de flux entrants, et en fait, c'était 7 milliards de flux sortants de Grayscale qui sont allés sur les ETF BlackRock et compagnie, Spot, qui étaient moins chers.
Ok, ouais. En tout cas, c'est très intéressant tout ça. Je voulais aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, sur Bitcoin, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup beaucoup d'or depuis le début. Mais avant ça, je voudrais vous dire à tous ceux qui sont arrivés, parce qu'il y a un petit peu plus de monde que tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'or, si vous avez des questions sur Bitcoin, et encore mieux si vous avez des questions sur la comparaison entre les deux. Bref, si vous avez des questions sur le sujet de ce soir, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker. Je vous le donne tout de suite, aucun problème, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi d'ailleurs, c'est, en fait, l'émission était censée, on était censé la faire il y a 2 semaines. Et j'ai eu une vie un peu chaotique à ce moment-là. Je me suis endormi juste avant. C'est jamais arrivé. Je me suis endormi juste avant l'émission. Et donc, je suis encore une fois désolé, Alexis, pour cette dinguerie.
Ah, aucun souci, ça arrive.
Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on refait l'émission aujourd'hui. Je suis très content que tu sois venu. Et donc, c'est ça. Alors, ma question, en gros, c'est: est-ce que tu penses... déjà, d'une part, que des assets backés par Bitcoin, est-ce que c'est un truc qui va arriver, qui va être quelque chose qui va s'installer dans la réalité? Et si oui, est-ce que tu penses, même allons encore plus loin, que ce soit possible que éventuellement Bitcoin remplace l'or?
Alors, je vais déjà répondre à la première question des produits backés par Bitcoin qui vont arriver. Alors, qui vont se démocratiser, je ne sais pas, mais en tout cas, qui vont arriver, oui, nous, on souhaite en proposer un. C'est un proof of concept qu'on a présenté au World Money Fair, qui en fait est un très grand salon de la monnaie dans le monde. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va produire qui est une pièce d'or avec une contre-valeur en Bitcoin. C'est-à-dire que la pièce va faire à peu près un dixième d'once, c'est-à-dire un peu plus de 3 grammes 10 en or avec une contre-valeur de 1 millibitcoin dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura environ 200 euros au cours actuel de valeur d'or plus 70 euros de valeur BTC sur la pièce. Et donc, ça va être un petit peu produit assez innovant qu'on va proposer. Et pour le coup, ça va être une pièce d'or backée par du Bitcoin en quelque sorte. Et concernant la seconde question, est-ce que le Bitcoin va dépasser l'or? Bon, alors, comme tout le monde, je vois pas, j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas. Mais de mon point de vue et à mon avis, je pense pas. Souvent, en fait, Bitcoin et l'or sont tous les deux des technologies monétaires un peu de pair à pair. Et quand on s'intéresse aux technologies de pair à pair, on voit souvent que le premier a toujours tendance à rester devant. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres domaines, mais ça l'est pour les technologies décentralisées de pair à pair. Et actuellement, en fait, on a la capitalisation totale du Bitcoin qui fait à peu près un dixième de celle de l'or. Et moi, par exemple, quand je fais un petit peu mes analyses, mes prédictions à venir du cours de Bitcoin, je me dis que le cours que Bitcoin ne peut pas dépasser, enfin en tout cas la capitalisation, est celle de l'or. Sachant que l'or est un actif qui a une adoption qui est mondiale, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît l'or comme un actif qui a de la valeur. Tous les pays en ont à des proportions différentes dans leur coffre. C'est un petit peu des reliques entre guillemets de Bretton Woods, mais c'est aussi ce qui fait un peu le ça donne quand même de la crédibilité à la monnaie qu'émet un État. Et en fait, aujourd'hui, l'or a une adoption qui est mondiale et le Bitcoin, on est plus aux alentours d'une dizaine de pourcents de la population. Et en fait, ça représente aussi bien la différence de capitalisation entre les deux avec un rapport de 1 pour 10. Donc peut-être qu'un jour, enfin je pense que Bitcoin va continuer à se rapprocher de l'or en termes de capitalisation, mais de mon point de vue, je ne pense pas que Bitcoin va dépasser l'or.
Alors moi j'ai un argument contre le tien, mais il va loin dans le futur, il va très très loin dans le futur. Je me dis bon, éventuellement les humains, il va falloir qu'ils partent de la Terre. Tu vois. À ce moment-là, on prendra des vaisseaux. Et sur les vaisseaux, il y aura pas d'or. Par contre, il y aura des monnaies numériques. Donc, voilà, je pense que non, mais en gros, avant ça, Bitcoin a des propriétés que l'or n'a pas, qui sont quand même beaucoup plus alléchantes. Bon, tu sais bien, hein, il y a par exemple le fait que t'aies pas besoin de le transporter physiquement. Donc c'est quand même.
Pour moi, la portabilité de l'or, en fait, aujourd'hui, bon. On est obligé de passer par des intermédiaires pour créer cette valeur-là, mais les intermédiaires en fait permettent vraiment de justement de créer de la portabilité. Et en fait, chaque jour, il y a des quantités phénoménales d'or qui s'échangent sur les marchés. Et en réalité, il y a très peu de mouvements d'or, étant donné que la valeur peut s'échanger, mais le support de la valeur, qui est le métal en lui-même, n'a pas forcément besoin de se déplacer à chaque échange. Et la portabilité de l'or, en fait, existe quand même si on la perçoit différemment de Bitcoin. Après, je sais que parfois aussi, il y a un petit peu l'argument de est-ce qu'on va découvrir une météorite qui sera pleine d'or et donc l'or ne sera plus rien.
J'allais y venir carrément.
Peut-être, pourquoi pas. Ça, on ne le sait pas. Mais dans ce cas, on peut aussi avoir le même argument contre Bitcoin, entre guillemets, qui est est-ce qu'on ne va pas avoir l'informatique quantique qui va permettre de calculer une clé privée à partir d'une clé publique. Ouais. Et donc, plus aucun Bitcoin ne vaudra quoi que ce soit.
Ouais, c'est sûr. Mais que les deux ont des...
Je considère tous les deux comme des menaces lointaines et abstraites qui ne sont pas forcément en fait, à prendre en considération, en tout cas sur notre durée de vie à chacun.
Ouais, c'est un très bon point. Il y a oui, effectivement, pour l'or, t'as totalement raison de dire que de toute façon, bah, tous les États en ont dans leur coffre, sauf le Canada, qui sont complètement débiles. Mais genre, ils vont jamais, enfin, ils vont pas abandonner leur boîte zéro. Oh, finalement, l'or, ça vaut plus rien. Et, let's go full
Même
Bitcoin,
si
c'est
le
pas
calcul
arrivé.
de reliques barbares, ils continuent à en acheter chaque année et à faire refaire leur stock. Donc ils ont quand même un double discours qui est assez intéressant à observer.
Ouais, mais du coup, mais il y a quand même plein de désavantages. En plus du fait que c'est difficile enfin, c'est compliqué à transporter et tout. Il y a le problème de la contrefaçon, ça existe vraiment, hein, des lingots qui sont des lingots d'or et en fait, ils sont remplis de, je crois, de
Après, là,
tungstène.
sur les marchés professionnels, en fait, c'est très facile à détecter.
Ouais.
Par exemple, pour un lingot qui est fourré au tungstène, étant donné qu'il a la même masse volumique, tu ne peux pas le vérifier par ce moyen-là. Par contre, tu peux utiliser un spectromètre de masse qui, lui, va détecter le fait qu'il y ait du tungstène dans la matière. Ou encore, tu peux faire sonner le lingot, qui, en fait, est une technique très ancienne, mais qui marche toujours aussi bien. Et un lingot fourré au tungstène ne va pas faire le même son qu'un lingot d'or fin.
Ok.
Donc
Intéressant.
c'est pour ça que pour moi l'or reste infalsifiable, tout comme Bitcoin. Bitcoin est infalsifiable par son code et aux mathématiques, et l'or est infalsifiable grâce à ses propriétés physiques.
Ouais. Mais bon, Bitcoin, tu peux pas mettre du tungstène dedans. C'est compliqué.
Non, c'est
Mais
sûr.
il y a Mister Eden qui veut dire quelque chose. Salut, Mister Eden, ça va?
Oui, salut, salut Radio Tchad, salut Alexis. Merci beaucoup pour le développement que Alexis est en train de faire depuis. C'est très riche. En fait, c'est la question de la petite comparaison entre le Bitcoin et l'or qui m'a un peu interpellé parce que disons que c'est ma principale réflexion en ce qui concerne tout ce qui est blockchain et vision du futur. Et pour répondre à ça, ce que moi je m'étais fait, c'était que j'avais envisagé le scénario du blackout, le chaos total, celui dans lequel tout ce que la civilisation humaine a pu construire s'effondre du jour au lendemain et qu'ils doivent quand même survivre. Dans ce cas de figure-ci, l'humain va, qu'il le veuille ou pas, retourner vers l'or, parce que ça existait bien avant qu'on ne vienne. Et c'est là où, d'une certaine façon, je pense, et je pense que je suis assez sûr là-dessus, c'est que tout le monde envisage ce petit scénario quelque part dans sa tête. Et juste pour ça, beaucoup accordent une certaine valeur refuge à l'or, comparativement à tout ce qu'il y a comme monnaie qui puisse servir de vecteur d'échange de valeur actuellement sur la planète. Donc, le Bitcoin y va évoluer. Certes, mais je pense que tout comme on peut le remarquer sur la blockchain ou les autres crypto-monnaies, ils évoluent, mais le Bitcoin garde toujours son avance d'une certaine façon. Le Bitcoin va évoluer, certes, mais l'or aussi va garder son avance parce que tout le monde va le garder dans un coin de la tête pour l'éventualité d'un scénario où tout devrait s'effondrer et qu'on ait, disons, l'obligation et le besoin d'avoir un système économique qui puisse fonctionner à ce moment-là. Et de toute façon, l'or, c'était sur la terre avant que l'humain ne vienne, je pense. Donc, on va rapidement se retourner là-dessus. Donc, mis à part toute la confiance qu'on a dans le Bitcoin et dans son intégrité technologique, l'or a une certaine confiance qu'il a pu gagner auprès de tout le monde qui est, disons, acquis et qui est indiscutable, qui va juste prendre en valeur au fur et à mesure du temps, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est un peu ça. C'était juste ce point-là que je voulais partager ça. Merci.
Merci, oui, très intéressant comme point de vue. Et justement, ça me fait revenir en tête un point qu'on n'a pas abordé, qui en fait donne une avance à l'or et aussi justement son aspect matériel. C'est-à-dire qu'en fait, l'or, le marché de l'or a une grande partie de sa demande, qui est, je crois, de l'ordre d'à peu près 50%, qui va être la demande de production de bijoux. Ce que n'a pas Bitcoin et ce que ne peut pas avoir en fait Bitcoin, C'est-à-dire que certes, Bitcoin, on va dire, a l'avantage d'être immatériel, donc d'être extrêmement portable, mais justement, le fait d'être matériel pour l'or va lui donner une demande, on va dire, de l'industrie du monde physique. Et c'est aussi un des facteurs, en fait, qui contribue à la demande de l'or dans le monde. C'est-à-dire qu'on aura, enfin, il y a toujours une demande pour les bijoux, certaines cultures sont très attachées à l'or. Et justement, cette demande de production est aussi un facteur qui, de mon point de vue, contribue à donner une avance à l'or au Bitcoin. Et tout comme tu l'as très bien expliqué, Bitcoin garde une avance sur toutes les autres crypto-monnaies. Et de la même façon que je pense que Bitcoin ne va pas dépasser l'or, je pense qu'aucune crypto-monnaie ne va jamais dépasser Bitcoin en termes de capitalisation un jour.
Ouais, totalement d'accord.
C'est une très, très bonne remarque parce qu'en fait, c'est marrant, c'était un argument, c'était un des arguments qu'il y avait dans les nombreux débats il y a très longtemps, genre très longtemps, 4-5 ans, quand tu avais des gars comme Antonopoulos qui confrontaient des acteurs plus traditionnels et les mecs leur rétorquaient ça en fait. Ils leur disaient, mais moi avec l'or, je peux faire des, je sais pas comment, des trucs que tu mets dans les dents. Je peux faire des composants électroniques. Je peux faire toutes sortes de choses avec ton Bitcoin. Tu peux rien faire et donc ça n'a pas de value intrinsèque. Et c'était un argument qui était un peu facile, tu vois, à proposer parce qu'en fait, c'était faire fi en fait de ce qui est vraiment le Bitcoin. En fait, la valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est la liberté, finalement. C'est le fait que tu puisses justement être ta propre banque, que tu puisses avoir de la valeur qui est complètement inatteignable et incorruptible. Et ça, c'était impossible à avoir avant. Mais les gens à cette époque-là étaient pas tout à fait avaient pas tout à fait compris le principe en fait. Ces gens, ils pensaient vraiment que c'était juste. En fait, je sais pas comment ils voyaient ça, comment ils voyaient le Bitcoin à l'époque. Peut-être qu'ils connaissaient pas encore la tech ou quoi. Mais en gros, ça. Donc effectivement, mais c'est effectivement un argument plus ou moins valable. C'est-à-dire, c'est au moins une dimension sur laquelle Bitcoin peut pas être en compétition avec l'or. Ça, c'est sûr. Ce sera toujours utile.
Après, pour le coup, le fait qu'on dise que le Bitcoin n'est pas de valeur intrinsèque, pour moi, Bitcoin, en fait, est tangible. Donc, il a de la valeur tangible. Il y a deux définitions. La première, c'est ce qui peut être touché. Donc, bon, là, c'est sûr que c'est un petit peu difficile de toucher un Bitcoin. Mais la deuxième définition est ce dont la réalité ne peut être démontrée, ne peut être démontée, en fait. Donc, Bitcoin fait partie de ces actifs dont la réalité est absolument existentiel, quoi. À partir du moment où il y a des gens qui l'utilisent, qui y accordent une certaine valeur, la réalité de Bitcoin est tangible. Et puisque c'est quelque chose de tangible et qui en plus a une certaine proposition de valeur, justement ce système de paiement, le fait qu'il ait créé en fait de la valeur dans un milieu numérique qui, de par nature, est un milieu qui n'a pas de valeur, ça fait que Bitcoin a une valeur intrinsèque. Qui est en fait non nul. Par design, sa tangibilité, par son code, par voilà, sa structure, fait que le Bitcoin ne peut pas avoir de valeur intrinsèque nulle.
Ouais.
Ok, très très bonne démonstration. J'en profite pour savoir. Je sais pas, Mister Eden, est-ce que tu avais une autre chose que tu voulais dire ou une autre question que tu voulais poser éventuellement?
Non, pas vraiment. En fait, disons que, comme d'habitude, j'apprends de tout ce que Alexis est en train de développer. Donc ça se voit qu'il maîtrise un peu le sujet, donc j'écoute, histoire d'ajouter un peu à ma petite encyclopédie cervicale. Donc, non, j'ai rien de nouveau à ajouter, en fait. Disons que c'est le débat qui est intéressant, ça donne à réfléchir et je participe, c'est tout.
Ok. En tout cas, merci pour ton intervention. S'il y en a qui ont aussi qui ont envie d'intervenir, n'hésitez pas. J'ai une question, Alexis. Est-ce que tu penses que il faudrait que les États fassent des réserves de Bitcoin comme ils ont fait dans le passé et continuent à faire pour certains d'entre eux des réserves d'or? Et si oui, tu penses que ça devrait être quoi le pourcentage hors Bitcoin?
Alors la réponse, je pense que c'est important que les États justement constituent des réserves de Bitcoin. Pour l'instant, les seuls États à avoir des réserves assez importantes connues, je crois, sont le Salvador, qui du coup l'a adopté comme monnaie à cours légal et rappelle souvent qu'ils en achètent. Les États-Unis, qui en ont en fait récupéré des quantités conséquentes dans la lutte contre les places de marché du Darknet. Donc je crois que les États-Unis possèdent plusieurs centaines de milliers de bitcoins. Il faudrait peut-être que je retrouve le chiffre ouais. exact.
Au début, ils les vendaient aux enchères, mais non, je crois qu'ils commencent à les garder.
Il me semble qu'ils les gardent aussi. Et d'autres États, en fait, la plupart des réserves de bitcoins que possèdent les États sont souvent des saisies policières issues des activités illégales. Et tous les États, en fait, ne vendent pas forcément les cryptos qu'ils ont saisies. Donc c'est une stratégie, je pense, pour certains, pour se constituer des réserves. Par exemple, à ce titre, je pense que les États-Unis ont déjà fait de très bonnes réserves. Et pour ceux qui veulent s'intéresser plus en détail, il y a un ouvrage que vous pouvez consulter qui parle justement de l'importance des États à constituer des réserves en crypto. Il s'appelle Software. Alors, je crois que l'ouvrage n'est plus trouvable. Il a été écrit par un ancien militaire de l'USS Space Force. Et en fait, alors bon, il n'est pas très facile à lire, il est disponible qu'en anglais, mais il développe un petit peu tout le long de son livre le pourquoi les États doivent justement constituer des réserves en Bitcoin. Et pour résumer très rapidement, en fait, c'est le fait d'avoir une armée de terre permet de garantir l'accès à la terre, le fait d'avoir une marine permet de garantir l'accès à la mer, pour les forces aériennes, l'espace, voilà, vous avez compris l'idée. Et en fait, le fait d'avoir de la puissance de calcul et du Bitcoin permet à un État de garantir son accès au milieu cyber. Et c'est pour ça en fait qu'il développe un petit peu tout le long de son ouvrage l'importance pour les États, d'un point de vue stratégique, à s'intéresser au Bitcoin, en tout cas à la partie minage pour proof of work, et aussi à en détenir dans leur réserve.
C'est vraiment super pertinent ce que tu es en train de dire. C'est vrai que c'est un petit peu hors champ, mais c'est vraiment c'est un très gros sujet. Détenir la puissance de calcul aujourd'hui, c'est un truc de fou. En fait, c'était pas comme ça. C'est nouveau. En fait, c'était pas comme ça avant. Avoir la puissance de calcul, tu faisais toutes sortes de choses, mais c'est plus aussi stratégique que maintenant. Maintenant, c'est crypto et AI. Donc, c'est quasiment les deux trucs les plus importants qui existent. Et donc effectivement c'est quelque chose, c'est un sujet en soi.
C'est ça. Et d'ailleurs l'auteur dans son ouvrage propose en fait un peu théorise un peu sur le fait que des États pourraient régler des disputes entre eux, notamment au travers d'une compétition sur une preuve de travail. Après voilà, ça, on rentre peut-être un peu plus dans l'abstrait. Mais en fait, ils pensent que justement cette puissance de calcul permettrait potentiellement de résoudre des disputes entre États.
Je vais donner la parole à Mr. Eden, mais juste avant, est-ce que tu peux éventuellement mettre le lien de l'ouvrage dont tu parles dans les commentaires? Ou juste le titre serait quand même plus simple. Si jamais t'as pas forcément la ref, le lien Amazon ou quoi, mais genre ouais le titre qu'on puisse faire nos recherches.
Je crois que l'ouvrage n'est plus disponible à la vente. Par contre, il y a toujours la possibilité de le trouver un petit peu sur Internet. Étant donné qu'en fait le militaire qui l'a écrit a été sommé par sa direction de retirer l'ouvrage de la vente.
Ah, carrément.
Ouais, ah, je vais vous partager le nom de l'ouvrage.
Ok, d'accord, super. Ça rend le truc encore plus sexy, le fait que ce soit interdit. Mr. Eden, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, c'est justement le nom de l'ouvrage que je voulais demander. Et ah, aussi... Okay. Faire remarquer qu'en fait, ça n'a rien de choquant, la direction que tout est en train de prendre. Disons que notre civilisation est déjà en train de passer dans un côté cyber, on va dire. Déjà depuis un bon moment, on a l'ordinateur, on a l'Internet, on est actuellement en train de faire quoi ? L'IA, la robotique, donc c'est clair, c'est tout un nouveau monde informatique qu'on est en train de mettre en place. Et il est évident que ça nous fait deux mondes à gérer. Avant, on n'avait que le monde physique à gérer, mais là, maintenant, on a le monde de l'information, le monde de l'informatique qu'on doit gérer et qui est, disons, à part entière, superposé au précédent. Et évidemment, chaque monde a ses propres règles, sa manière de fonctionner et sa propre économie. C'est là où le Bitcoin est venu s'installer pour être la base de l'économie du monde informatique. Donc, évidemment, le gouvernement, s'ils s'amusent à ne pas se mettre en place en même temps, ils vont en payer les pots cassés plus tard. Parce que ce n'est pas comme dans la géopolitique où il y a la géopolitique locale qui, elle, va maintenant gérer avec la géopolitique internationale. Du côté de l'informatique, c'est presque comme si c'est une géopolitique globale. Il n'y a pas trop de répartition géographique. Donc, les États, en fait, vont assurer à leur population de faire partie de ça en faisant des réserves de Bitcoin. Donc, c'est presque une obligation.
Et à ce titre, je pense que la Chine a peut-être fait une erreur en interdisant le minage. Pour des raisons de mettre en avant leur monnaie numérique de banque centrale. Mais la Chine avait un gros avantage par rapport au reste du monde qui était qu'elle possédait, je crois, jusqu'à 60% de la puissance de calcul de Bitcoin. Et en fait, l'interdiction de Bitcoin par la Chine a redistribué cette puissance de calcul vers d'autres pays, un petit peu vers le Kazakhstan, mais aussi beaucoup vers les États-Unis.
J'étais en train d'attendre la suite, mais en fait, en fait, si je fais la synthèse de ce qui s'est dit cette émission, en fait, on peut dire que ton point de vue, c'est que Bitcoin et l'or, c'est plutôt complémentaire que concurrent. Si jamais, alors je vais te poser la même question, mais cette fois-ci pour le particulier, en fait, pas pour les États, mais si pour le monsieur tout le monde, est-ce que ce serait quoi le portfolio idéal, en tout cas le pourcentage qu'il faudra louer à l'or et à Bitcoin dans un portfolio qui, d'après toi, serait sain?
J'avoue que c'est une question un peu difficile à laquelle répondre. Ça dépend des objectifs de chacun. Par exemple, pour quelqu'un qui est jeune, je pense que avoir une aversion au risque plus élevée, donc une part de Bitcoin plus élevée, est intéressant. Et vraiment, en fait, ça va dépendre des objectifs. Si par exemple tu places l'apport que tu vas avoir pour un investissement immobilier, c'est peut-être plus intéressant d'aller chercher des métaux précieux qui vont en fait compenser la baisse de la valeur de la monnaie. Si tu cherches vraiment la performance avec une certaine aversion au risque de l'investissement, se dire un petit peu ce que tout le monde connaît, se dire que l'investissement qui est mis dedans est perdu pour pas y avoir trop d'attache émotionnelle, ni se mettre en fait en difficulté en cas de baisse des cryptos, il peut avoir une propension plus élevée au Bitcoin. Je pense que c'est assez difficile de donner un pourcentage précis, tant il y a des profils différents d'investisseurs, mais en tout cas je pense qu'il est important que les particuliers aient un petit peu de ces deux actifs dans leur portefeuille d'investissement global.
Ok. Est-ce qu'il y a un moment pour acheter de l'or? Est-ce que tu penses que par exemple en ce moment c'est un bon moment pour acheter de l'or? Est-ce que tu dirais plutôt attendez je sais pas tel événement ou telle année ce sera mieux, ou alors faites comme pour Bitcoin, faites du DCA? Ce serait quoi ton conseil par rapport à ça?
Alors l'or, souvent quand on va vouloir en acheter, on va se dire il est pas loin du plus haut, il est trop cher pour l'acheter. Sauf que l'or en fait est toujours trop cher. C'est-à-dire que on pense qu'il est souvent trop cher quand on l'achète, et les gens se sont souvent dit en 2013 l'or est à tel niveau, il est trop cher, on va attendre. Après l'or en 2020 il est à tel niveau, il est trop cher, et étant donné qu'il absorbe la baisse de valeur des monnaies, il va toujours avoir tendance à monter et il va toujours tendance à être cher. Donc ce qu'on recommande pour quelqu'un qui s'intéresse à l'or, ça va être comme quelqu'un qui s'intéresse au Bitcoin, de DCA. Typiquement en ce moment l'or est quasiment au plus haut. Et en fait, beaucoup de gens se mettent à vendre pour prendre des profits. Mais en fait, personne ne peut dire si demain l'or ne sera pas à 3 000 euros l'once sachant qu'aujourd'hui, voilà, il est aux alentours de 2000. Personne ne sait si c'est le moment de vendre, si c'est le moment d'acheter. Et pour quelqu'un qui veut, voilà, se construire un petit peu un bas de laine, un petit peu voilà, une assurance de son capital sur l'or, le mieux c'est d'acheter petit à petit de manière régulière, comme on pourrait le faire sur Bitcoin pour en fait laisser l'impact de la volatilité. Sachant que les objectifs d'investissement sur les deux actifs vont être différents, l'or plutôt, on va dire, une épargne, et le Bitcoin vraiment plutôt un investissement un petit peu risqué.
Ouais, en gros, il partage cette même caractéristique avec avec Bitcoin. C'est-à-dire que c'est il y a un petit peu une absence de fondamentaux, j'ai envie de dire. C'est pas du tout la même approche qu'avec des stocks, où les stocks, tu dis voilà, là, ça va être telle industrie qui va performer pour telle et telle raison. Tu peux faire de l'analyse macroéconomique et tout, l'analyse de la santé de l'entreprise. Enfin, tu peux, t'as toutes sortes de fondamentaux que tu peux analyser. Et donc, c'est, en général, on n'est pas en mode DCR, on est en mode c'est maintenant le moment d'acheter ici ou ça pour telle raison. Là, j'ai l'impression que Bitcoin et Gold se rejoignent au moins là-dessus sur la stratégie d'investissement la plus pérenne, j'ai envie de dire, celle qui fait le plus de sens, je sais pas.
Ouais. C'est parce que les deux actifs, en fait, vont être plus proches pour moi de monnaie que d'actions d'entreprise ou ce genre de choses. Et en fait, le fait qu'ils se rapprochent de monnaie et de monnaie non étatique, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas distribuer d'intérêt dans le temps, Bitcoin ne paye pas d'intérêt, l'or ne paye pas d'intérêt, ça fait que c'est des actifs qui sont uniquement régis par les lois de l'offre et la demande, et un petit peu, si ça te parle, la loi de Gresham, qui est un économiste qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne, et en fait, les gens vont avoir tendance à thésaurer la bonne monnaie, c'est-à-dire à le garder de côté, comme l'or, le bitcoin, et à utiliser dans la vie de tous les jours la mauvaise monnaie, donc qui va être le dollar, l'euro, justement pour se débarrasser en fait de la monnaie qui perd en valeur et pour conserver bien précieusement les monnaies qui en prennent dans le temps.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai pas d'autre. Je suis en train de voir qu'est-ce que je pourrais te poser d'autre comme question, parce que je suis très contente de t'avoir avec nous. Tu connais vraiment très bien le sujet, donc du coup je me dis bon, faut que j'en profite. Mais là j'ai plus de questions, j'ai plus d'idées. Alors s'il y en a dans l'assemblée qui ont des idées de questions, de choses que vous aimeriez savoir sur l'or, sur la relation que peuvent entretenir l'or et Bitcoin, n'hésitez pas, c'est le last call, littéralement, parce qu'après, on va se quitter. Tu fais quoi en ce moment, Alexis, d'ailleurs? C'est quoi tes projets?
Justement, je travaille toujours dans le groupe au coffre, donc en tant que responsable des activités crypto, et en fait, moi, je veux vraiment être sur le développement des activités. Donc là, en ce moment, Clipcool, avec toute la partie réglementaire qui a un gros morceau qui risque d'arriver assez vite. Et en fait, le fait de faire un petit peu des passerelles entre le monde de l'or, de la crypto, comme je te disais, on a le problème de faire la pièce vert à Bitcoin, donc une pièce d'or avec une contre-valeur en crypto dessus. Et en fait, de continuer à créer des synergies un petit peu entre les activités du groupe et donc entre le Bitcoin et l'or.
Ok. Merci énormément d'être venu parler de ce sujet-là avec nous ce soir. Encore désolé pour la dernière fois, hein. C'était pas voulu, mais bon, en tout cas, voilà. Et puis, si jamais tu veux revenir, qu'on se repasse une émission sur le même thème ou sur avec un angle d'attaque peut-être différent, ou alors sur un thème connexe, je serais ravi de te recevoir. Et puis c'est ça. Puis merci à Chloé qui nous écoute religieusement depuis le début, parmi les autres, pour nous avoir mis ensemble.
Attends,
j'ai un petit peu de bruit derrière moi.
Ce sera avec grand plaisir, et merci en tout cas pour le podcast de ce soir. C'était vraiment un plaisir d'échanger sur ces sujets.
Ben écoute, merci encore à toi. Et puis, on se dit bonsoir. Reposez-vous bien. Et puis, on se voit demain. Donc, comme je disais en début d'émission, on va faire une émission spéciale. Donc, comme tous les jeudis, hein, c'est géoéconomie, géopolitique tous les jeudis avec Vincent. Et demain, on va s'attaquer au marché du cacao. Ça vous paraît étrange, mais ça ne l'est pas parce que le prix du cacao a été multiplié par 5 ces derniers jours. C'est un délire monumental, on n'a jamais vu ça. C'est une crise énormissime qui est en train de se dérouler pour j'allais dire cet asset là, mais je sais même pas que c'est quoi le nom qu'on donne aux denrées alimentaires. C'est quoi, c'est, est-ce que ça fait partie des commodités?
Ouais, ça fait partie, c'est ça, les des commodities. Donc c'est en fait dans la même catégorie que les métaux précieux, que le bois, que le pétrole. C'est vraiment en fait toute cette grande catégorie, donc des commodities ou des matières premières de manière un peu plus franco-française.
Ok, ouais. Si jamais tu veux venir d'ailleurs demain, n'hésite pas. Et donc en gros, on va parler de ça, Et puis on va s'interroger, on va essayer de voir le contexte, évidemment, parce que c'est lié. Alors, je le connais pas encore, j'ai pas encore étudié le sujet, je vais faire ça demain. Mais c'est évidemment lié aux pays producteurs, j'imagine, de cacao, parce qu'ils sont pas très nombreux. Je crois qu'il y a quelques pays d'Afrique, genre deux pays en Afrique qui font l'essentiel des exportations. Donc c'est probablement lié à ça, peut-être à d'autres trucs. On va voir ça, tout ça demain, et puis on va voir comment on peut éventuellement. C'est quoi les perspectives par rapport à ça, genre en termes de consommation pour nous, mais aussi pour les investissements ou quoi. On verra. On va parler. On va vraiment faire. On va faire un tour du sujet et basé que sur du. Bah, pour la plupart, pas que, mais gros factuel comme d'habitude. Il y a Carter qui veut proposer, qui veut dire quelque chose. Je vais l'approuver. Comme ça c'est fait. Salut Carter, je sais pas si tu est-ce que tu peux parler? Ça ne marche pas. J'ai pas l'impression que ça. J'essaie de le faire monter. Bon. Voilà. L'émission en ce moment, elle est très intéressante. Hop. Est-ce que c'est chez moi que ça bug ou pas?
Moi, je t'entends bien de mon côté.
Ah, jamais. Ok, d'accord. Parce que je voyais chez toi du, je voyais que ça bougeait, l'espèce de petite de truc de vocal, là, les petits traits violets. Je me suis dit, est-ce que Alexis est en train de parler? Je l'entends pas. Est-ce que il y a plus rien qui marche? Carter, il veut pas monter. Bon, en tout cas, Carter monte pas, c'est pas grave. En tout cas, on va se quitter. Et on se dit rendez-vous demain pour l'émission avec Vincent. Et puis c'est ça. Et puis dimanche, ça va être une émission avec Lane. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus. Ce sera une émission un petit peu différente d'habitude. Et c'est très cool comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore Alexis d'être venu ce soir. Et puis tu reviens quand tu veux. Et puis voilà. Bonne soirée.
Bonne soirée. Merci. Et au plaisir pour une prochaine fois.
Ok. Bah ciao, pas de musique parce que d'habitude il y a de la musique pour fin, mais j'ai pas le matos, donc je vais couper comme ça. Allez, salut.
Ciao.